Bonjour mes frères et sœurs. Je vous invite à faire une lecture dans le livre de Mormon, dans le livre de Doctrine et Alliance, à la section 38, versets 7 à 15. Mais voici en vérité, je vous dis que j'ai les yeux sur vous. Je suis au milieu de vous, et vous ne pouvez me voir. Mais le jour vient bientôt où vous me verrez, et saurez que je suis. Car le voile des ténèbres sera bientôt déchiré, mais celui qui n'est pas purifié ne supportera pas le jour. C'est pourquoi saignez-vous les reins et soyez préparés. Voici le royaume est à vous, et l'ennemi ne vaincra pas. En vérité, je vous le dis, vous êtes purs, mais pas tous. Il n'est personne d'autre en qui je me complaise. Car toute chair est corrompue devant moi, et les pouvoirs des ténèbres règnent sur la terre parmi les enfants des hommes en présence de toutes les armées du ciel, ce qui fait régner le silence. Toute l'éternité est peinée, et les anges attendent le grand commandement de moissonner la terre, de rassembler l'ivraie, pour qu'elle soit brûlée. Et voici, l'ennemi est coalisé. Et je vous montre maintenant un mystère, une chose qui est gardée dans les chambres secrètes, pour provoquer, avec le temps, votre destruction, et vous ne le saviez pas. Mais maintenant, je vous le dis, vous êtes bénis, non à cause de votre iniquité ni de votre cœur incrédule, car en vérité certains d'entre vous sont coupables devant moi. Mais je serai miséricordieux envers votre faiblesse. C'est pourquoi soyez dorénavant forts, ne craignez pas, car le royaume est à vous. Mes frères et sœurs, que Dieu bénisse cette parole et nous aide à la comprendre. Aujourd'hui, nous menons le combat contre les plus grandes démonstrations, la plus grande démonstration de péché, de vice et de mal qui ait jamais été déployée sous nos yeux. Ce n'est pas sans raison que le Seigneur a dit au sujet de notre époque, l'ennemi est coalisé. Oui, mes frères et sœurs, l'ennemi de Dieu et de son Église, tous ses ennemis sont unis en vue d'une action commune. Ils ont fait une alliance secrète pour défendre leur intérêt commun, pour s'opposer à leur ennemi commun, le Seigneur notre Père Céleste et son Église. L'ennemi, le diable et ses troupes sont désunis généralement. C'est ce qui les perd en fait. L'unité ne se trouve qu'en Jésus-Christ le Seigneur. Là, ils ont créé une entente circonstancielle. Vous savez, un peu comme les groupes politiques qui ne s'entendent pas, mais juste avant les élections, ils se mettent d'accord. Parce qu'en haut lieu du pouvoir démoniaque, ils savent que Jésus revient bientôt. Alors, ils ont créé une entente circonstancielle. Et le peuple de Dieu, le vrai peuple de Dieu, lui aussi est uni. Il semble qu'il y a beaucoup de divisions. On entend on voit des gens sur YouTube critiquer d'autres chrétiens publiquement. Ça lance un discrédit, ça salit le corps de Christ, ça salit l'Église de Jésus-Christ, mais ils le font quand même, et ça semble être une confusion totale. Non, mes frères et sœurs, le vrai peuple de Dieu, lui, il est uni. Nous sommes tous enrôlés dans la guerre, même si nous ne croyons pas tout à fait les mêmes choses, les mêmes doctrines. Nous sommes tous enrôlés dans la guerre. Le vrai peuple de Dieu se tient les coudes, comme on dit. L'Esprit de Dieu, esprit de paix et de respect, nous tient unis dans cette guerre. Cette guerre, elle a commencé bien avant notre venue sur terre. En fait, cette guerre qui a commencé, elle a commencé bien avant la création du monde. Cette guerre a commencé il y a de nombreux millénaires dans le monde prémortel, quand l'adversaire s'est rebellé contre notre Père Céleste. L'adversaire, qu'on appelle Satan, c'est pas son nom, ça veut dire adversaire, il a perdu cette bataille. Il a été exclu du grand conseil divin. Et puis, quand les mondes ont été créés, il a été placé sur Terre, sur notre planète, en dehors du jardin d'Éden. Dieu a créé un jardin en Éden, et il a mis là Adam et Ève, et Satan était hors du jardin, incarné dans une chair, celle d'un serpent, d'un dragon, enfin d'un reptile, se tenant debout, parlant le langage, le même langage qu'Adam et Ève, ils pouvaient le comprendre. C'est presque un homme. Et Adam et Ève ont chuté. Bon, on connaît l'histoire. Et de nos jours, Satan continue sa guerre. Ici, sur terre. Il fait la guerre aux saints. Il les environne de toutes parts. Il nous environne de mensonges, de calomnies, de tromperies, de félonies, de tentations. Il fait la guerre contre les prophètes de Dieu, contre les envoyés de Dieu. Il fait la guerre contre la loi de chasteté. Il fait la guerre contre la famille. Il fait la guerre contre la sainteté du mariage. Il fait la guerre contre ce qui est bon. Il fait la guerre contre ce qui est saint, contre ce qui est sacré. Comment combattre un tel ennemi, mes frères et sœurs? Comment lutter contre le mal qui semble submerger notre monde? Quelle est notre armure? Qui sont nos alliés? D'abord, il vous faut savoir que Satan n'a de pouvoir que celui que nous lui permettons d'avoir. Ensuite, il nous faut savoir que le pouvoir de l'agneau de Dieu est en nous. Il est sur le peuple de l'Alliance du Seigneur, sur le peuple qui observe ses ordonnances. Nous sommes armés de sa justice et de son pouvoir, et cela dans une grande gloire, bien que nos yeux ne le voient pas. Comment est-ce qu'on peut être certain de ça? Eh bien, je suis certain de cela parce que nous respectons le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, nous ne faisons pas n'importe quoi, nous nous occupons des choses du Seigneur. Parce que nous respectons les alliances sacrées, parce que nous les pratiquons, parce que nous travaillons au rapprochement des pères à leurs enfants, en accomplissant ainsi la prophétie de Malachie qui dit que Élie viendra à la fin des temps pour que les enfants se rapprochent de leurs pères et les pères se rapprochent de leurs enfants. Et nous le faisons par la pratique de 1 Corinthiens 15, 29. Comprenne qui pourra. J'ai déjà enseigné tellement de fois ces choses. Parce que nous enseignons nos enfants aussi au sujet de la vérité de l'Évangile qui est rétabli. Parce que nous nous efforçons de nous repentir, parce que nous prions, parce que nous servons Dieu, notre prochain, nous servons l'Église, parce que nous témoignons, parce que nous exerçons notre foi en Jésus-Christ de toutes sortes de façons, parce que nous pourvoyons aux besoins de l'œuvre de Dieu, de sa maison sur terre, de l'Église, dans les dîmes et dans les offrandes d'une façon fidèle. Alors certains vont dire, oui, mais tout ça, ce sont des œuvres. Et nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. À ça, je réponds, nous sommes sauvés par la pure grâce de Dieu, par le moyen de notre foi qui doit être active. Si notre foi n'est pas active, si elle n'est pas accompagnée par les œuvres prescrites par Dieu dans la parole de Dieu, dans la Bible, notre foi est illusoire et nous sommes maudits. Alors, nous nous armons également de justice et de pouvoir en amassant continuellement dans notre esprit les paroles de vie. Nous chérissons ces paroles de vie, nous les chérissons en nous baptisant, en nous immergeant dans les Saintes Écritures et dans les paroles des serviteurs choisis du Seigneur. Ces serviteurs choisis du Seigneur nous font part de ce qu'il veut, de son avis, de sa voix, et par le moyen des prédications, des enseignements, des exhortations, diffusées par tous les moyens, écrits, vidéos, audio, etc., par tout cela, nous chérissons la parole de Dieu, ce que Dieu dit aujourd'hui. Et puis, dans cette guerre contre le mal, nous nous souvenons toujours que nous recevrons de l'aide des deux côtés du voile. Nos alliés incluent notre Père céleste, Jésus-Christ son Fils, le Saint-Esprit qui vit en nous, et aussi l'armée des anges de Dieu. Ne crains pas, disait Élisée à un jeune homme qui était pris de peur devant la force déployée par l'ennemi. Ne crains pas, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. Ou, dans une autre version, sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. 2 Rois 6, 15 à 16, pour ceux qui veulent le verset. Mes frères et sœurs, nous n'avons pas à craindre. Dieu aime les siens. Il ne nous abandonnera jamais. Je sais que Dieu, en réponse à mes prières, a exaucé mes supplications pour que je sois délivré du mal. Et encore dernièrement de ce cancer abominable, je viens de recevoir encore le compte-rendu du dernier examen que j'ai fait il y a quelques jours à Toulouse. C'est magnifique ce que Dieu fait. Quand Dieu fait quelque chose, il le fait complètement, jusqu'au bout, totalement. Je témoigne qu'avec l'aide de mon Père, de notre Seigneur, de notre Sauveur, du Sauveur du monde et du Saint-Esprit, nous pouvons être assurés de recevoir plus qu'assez de pouvoir pour résister aux forces du mal, quelles qu'elles soient. Nous avons confiance dans la victoire finale. Bien que nous ayons en ce moment sur cette terre bien des faiblesses, nous pouvons les surmonter, vous pouvez les surmonter. Nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Philippiens chapitre 4 verset 13. Nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. En effet, mes frères et sœurs, c'est par la grâce de Dieu que si nous nous tenons dans l'humilité, si nous avons la foi active, eh bien les choses faibles de ce monde deviendront fortes. Si vous êtes faible, dites « je suis fort », mais faites les œuvres qu'il commande de faire. Cela rassurera vos cœurs. Je lisais l'autre jour, dans le premier livre de Néphie, au chapitre 7, verset 17, qu'alors que ses propres frères l'avaient lié de cordes et avaient projeté de le faire périr, Néphie s'est écrié « Ô Seigneur, selon la foi que j'ai en toi, veuille me délivrer des mains de mes frères. Oui, donne-moi donc de la force afin que je rompe ces liens dont je suis lié. » Vous voyez, quand on lit attentivement, on fait attention à une chose. Néphie n'a pas prié pour que la situation change, que Dieu change la situation, non. Il a prié pour avoir la force de changer sa propre situation. Mes frères et sœurs, que votre foi soit agissante. Le but de la foi n'est pas de changer la volonté de Dieu en faisant des prières et des supplications, mais de nous donner le pouvoir d'agir selon ce qu'il veut. Mes frères et sœurs, notre vie est concentrée sur Jésus-Christ. J'espère du moins que c'est vrai pour vous. Nous pouvons connaître la joie quoi qu'il arrive, ou pas. Notre joie, elle est constante car nous sommes assurés que nos afflictions ne sont que pour un temps. Et là encore, eh bien Jésus-Christ est notre exemple. Il est écrit, en vue de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix. Il a souffert la croix en vue de la joie qui lui était réservée. Hébreux chapitre 12 et verset 2. Je dis cela parce que ce n'est jamais rigolo d'être dans une guerre. La guerre n'est pas une plaisanterie. Quand je vois tous ces chrétiens qui perdent leur temps dans les futilités, dans les critiques, sur YouTube, les horreurs qui sont dites sur d'autres, sur les serviteurs de Dieu, ces gens qui se sentent investis du ministère de dénonciateurs, c'est diabolique. Cependant, nous pouvons être dans la joie. Nous sommes dans une guerre, mais nous pouvons être dans la joie. Les gens qui cherchent des recettes du bonheur dans ce monde ne connaîtront jamais la joie. Car la joie, c'est un cadeau de Dieu pour ceux qui sont fidèles. Alors ne craignez pas, ne craignez pas. Dieu vous bénisse. Merci Jésus pour ce court message que tu m'as inspiré et permet que le plus grand nombre puisse l'entendre et s'en imprégner afin de pouvoir le vivre. Je te le demande, Père, dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen. Au revoir.